Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, c'est Roten sans flamme, mais sans Roten. Il n'y a que Jean-Louis Tour. On aurait pu appeler ça Tour sans flamme, mais ça fait bâtiment en feu.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Et oui, les gars, 18h, c'est bien Roten sans flamme qui est de retour sur RMC. Ce sera le cas jusqu'au 22 août. Jérôme est toujours en vacances, il se repose tranquillement, mais l'esprit de Roten sans flamme est là. Pour revenir sur le début de la Ligue 1, sur l'actu du soir, et pour vous accompagner ce soir jusqu'à 20h, coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis, et salut à tous.
Bon coach, je t'ai entendu en ce début d'été parler notamment de tes vacances qui n'ont pas été bonnes.
Ah ben, celles de Jérôme l'ont été, ouais. Moi non, c'est les pires vacances
à cause de, cette
de ma vie. Ben oui, parce que depuis 2-3 mois, donc on a fait le maximum pour, disons, répondre aux attentes de la DNCG. Donc on a battu le record de réunions, de coups de fil et tout, et pour prendre tout simplement un gros coup de pied au cul, inélégant, qu'on n'a pas apprécié, mais ça fait rien. On n'a pas perdu le moral, on est soutenu par la mairie, le maire François Comen, eh ben, il est derrière nous. Il sait très bien que le football est très important, même pour les petites villes, pas seulement pour les grandes. Et puis on a deux adjoints au sport, là, une Magali Ferrier qui est motivée aussi, le Hervé Marquez, eh ben, ce sont des personnes qui aident le football club de Sète. Donc le football club de Sète a été rétrogradé, mais n'a pas disparu.
Tu fais bien de les citer. Et d'ailleurs, ça a rendu fou de voir le communiqué de l'UNFP pour soutenir les joueurs bordelais qui sont dans un loft.
Quand tu es à la place du football club de Sète, tout petit, tu vois, donc comme un moucheron, et que tu vois et que tu lis ça, tu leur dis, le football club de Sète, après 3 mois de travail de la deuxième équipe dirigeante, contrairement à la première qui était catastrophique, ben, termine la saison et l'intersaison sans 1 euro de dette. Eh ben, c'est vrai que je me suis aperçu, hein, depuis que je suis sur cette planète, que le plus grand, eh ben, il était supérieur au plus petit, que le riche, il était supérieur au pauvre. Donc tout ça, on progresse à tout âge. Mais sincèrement, là, je dois reconnaître que j'étais naïf parce que je pensais jamais qu'on allait prendre ce coup de pied au cul.
Donc le club a joué en N2, mais tu vas rester, tu vas continuer de conseiller le président?
Ben, disons que bon, allez, on progresse à tout âge. Je me suis trompé parce que on s'est emmerdé pour rien, mais pas pour rien non plus, parce que bon, la nouvelle équipe dirigeante est considérée comme compétente, contrairement à celle qu'il y avait avant. Et je pense que le football club de Sète, eh ben, c'est, tu sais, le truc, peut-être reculer pour mieux sauter. Eh bon, on va voir. Ouais, pour répondre à ta question, allez, oui. Conseiller général. Allez,
ok, voilà. D'accord. Bon, hormis le FC Sète, on va parler de toute l'actu du foot. La Ligue 1 qui tient une de ses nouvelles stars. Alexis Sanchez est officiellement Marseillais. Il a été présenté il y a quelques minutes. On reviendra sur cette présentation et on va débattre avec toi, coach, et vous au 32-16, bien sûr. Le mercato de l'OM est-il désormais une réussite? Vous entendrez d'ailleurs les premiers mots d'Alexis Sanchez tout à l'heure. À 18h30, c'est le cas toute la saison dans Roten sans flamme, c'est faites entrer l'accusé. Et ce soir, c'est le club de Manchester United qui est l'accusé du soir, accusé de se tromper en faisant confiance à Adrien Rabiot. Les supporters de United qui n'ont pas accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Un invité ce soir, ce sera le milieu de terrain d'Ajaccio. Thomas Mangani sera avec nous. Ce sera tout à l'heure en deuxième heure. Il y aura aussi le meilleur de Julien Cazard, évidemment, avant 19h. Mais on va débuter par l'élimination de Monaco. Élimination hier cruelle.
Je pense que cruel, c'est le bon mot.
Oh, le ballon récupéré par Diatta, Tézé qui s'est enfermé. C'est un 3 contre 2 pour les Monégas. Brelembolo servi par Diatta. Brelembolo dans la surface. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas pénalty? Il n'y a pas pénalty. Ils ne sont pas parlé. Le ballon, le but. L'égalisation du PSG.
C'est Gutiérrez. C'est limite en tout cas. Hein.
Ouais, non, s'il y a enjeu à Strasbourg, il y a enjeu là.
Ça, c'est les choses cruelles de foot. On a dominé les deux matchs.
Attention, deuxième. Et c'est terminé. L'AS Monaco, qui était à 2 minutes près d'avoir ce ticket pour le barrage.
Nous avons eu plus des occasions que PSV, mais à la fin, tu n'es pas qualifié.
Alors vous avez entendu Arnaud Valadon qui était au commentaire du match hier soir avec Maxime Tilliette donc à Eindhoven. Arnaud qui est avec nous. Salut Arnaud.
Salut Jean-Louis, salut coach.
Alors on va revenir donc sur cette élimination de Monaco comme la saison dernière. Donc le Monaco, 3e de Ligue 1, ne verra pas la phase de poule de Ligue des Champions. Élimination donc cruelle si on reprend le mot du coach Philippe Clément. D'autant que on l'a revécu en direct, mais à la 89e, Monaco était virtuellement qualifié avant cette fameuse égalisation de Gutiérrez. Gutiérrez qui est pas loin d'être hors jeu, mais il ne l'est pas. Mais c'est surtout l'action précédente, le tacle sur Mbolo qui aurait pu faire penalty, qui peut nourrir ce sentiment d'injustice. Monaco est éliminé avec le sentiment d'avoir été meilleur que le PSV. Alors cette élimination, selon vous, était injuste. 32-16 supporters de Monaco. On va vous donner la parole, coach. Trouve qu'il y a eu injustice.
Ben, injuste, on va pas jouer avec les mots, mais qu'on peut avoir les boules, oui. Mais après, on peut avoir les boules aussi pour certains points qui sont pour moi un petit peu délicats. Tu sais, cette histoire toujours, on ne change pas une équipe qui gagne et tout, mais maintenant avec ces changements, c'est laquelle d'équipe qu'on ne change pas ? Celle qui démarre ou celle qui termine les matchs ? Quand je vois qu'il y a la même équipe à 100% de cette équipe qui avait été décevante à l'aller et qu'on se retrouve la même équipe avec ce Manamino, comment il s'appelle ?
Minamino.
Minamino, pour le moment, c'est un Mino. Donc, on va attendre qu'il s'adapte, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de jouer à 10 avec un poste qui est quand même important, c'est le sien.
Et surtout, donc, le Monaco après les changements n'avait rien à voir avec le Monaco d'avant les changements.
Mais on a vu aussi un Monaco énorme dans la deuxième période à Strasbourg il y a quelques jours de ça.
Exactement.
Donc, ce Monaco-là qui a la possibilité de pouvoir changer parce que le quatuor offensif de la deuxième partie, c'était quand même un quatuor offensif de 4 sur les 5, voire même 6 rentrées, puisqu'il y a aussi un règlement qui te donne
en prolongation
une sixième possibilité si tu fais les prolongations. Mm-hmm. Non, je pense que Monaco méritait de se qualifier. Mais je pense aussi qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux, même si on peut avoir les boules aussi à la 89e minute quand il y a ce but qui est le but catastrophique pour Monaco moralement aussi. Une minute avant, il y avait peut-être quand même un petit quelque chose. Hein. Donc là aussi, la VAR, ils sont bien gentils. Il y a un but qui est refusé. J'ai vu un Strasbourg-Monaco avec une possibilité machin. Ouais. Et là, sur la même ligne, eh ben, des fois, il y a hors-jeu, des fois, il n'y a pas hors-jeu. Quand un joueur, il tourne les fesses et qu'il fait un truc sur un tir et qu'il met le coude, on ne sait pas s'il y a pénalty. Mmh. Ça dépend le camion. Ça dépend s'ils sont à l'apéro dans le camion. Ça, je sais plus quoi faire. J'écoute et j'attends comme un idiot.
Arnaud, c'était quoi le sentiment des Monégasques après le match hier?
Alors on a eu que Philippe Clément, mais dès le coup de sifflet final de l'abattement, déjà après l'égalisation à la 89e du 2 partout, ce fut dur. On a vu Dizazi qui avait pris le brassard de capitaine parce que Ben Yedder était sorti, essayer de remobiliser tout le monde, ne pas revivre le scénario du Shakhtar où l'année dernière ils avaient passé le tour préliminaire mais avaient buté en barrage face au Shakhtar. Ils avaient perdu 1-0 à Louis II, ils avaient fait 2-2 là-bas en menant 2-0 à la mi-temps. Donc il y avait un petit peu ce spectre, ce scénario catastrophe qui était un petit peu dans les têtes et ils ont pas su en prolongation faire la différence. Ils ont essayé d'envoyer des longs ballons et voilà, au coup de sifflet final, on a vu des joueurs au sol, des joueurs abattus. Ils sont pas venus dans la presse, seul Philippe Clément qui n'a pas voulu blâmer ses joueurs, hein. Vous l'avez entendu, il a dit c'est cruel, mais mes joueurs ont tout donné. C'est un petit peu bizarre le sentiment parce que effectivement l'entraîneur belge voulait pas accabler ses joueurs parce que il y a quand même deux poteaux encore hier, il y en avait eu un montant lors du match chalet, mais c'est vrai que ça commence à faire lourd. C'est la quatrième saison de suite sans Ligue des Champions pour Monaco. Et Wissam Ben Yedder qui est arrivé en 2019, toujours pas de Ligue des Champions aussi. Donc ça pèse un petit peu sur le moral parce que la disette commence à être assez importante pour l'AS Monaco. La dernière fois qu'il faisait de la Ligue des Champions, il y avait encore pas le chaos.
Il y a des regrets à avoir hier, évidemment qu'il y a des regrets. Après une défaite, ce qui est le plus emmerdant, c'est qu'en plus de la défaite, tu as les regrets. Donc c'est tout à fait normal que le coach, avec une certaine élégance logique, ne peut pas s'en prendre à ses joueurs. Si ça en prend à ses joueurs, il s'en prend à lui aussi.
Mais oui, bien sûr. Alors petit
point. Pourquoi? Tout simplement, tu sais toujours. ma vision des choses, c'est soit tu es inspiré pour un joueur, pour un entraîneur aussi, soit tu n'es pas inspiré.
Il n'est pas inspiré,
c'est tout.
Du coup, ça fait que Monaco n'a joué qu'une mi-temps sur deux, parce que la première mi-temps à l'aller, ils sont dominés. Et là, la première mi-temps hier, pareil. Hein.
Après, tu peux te dire aussi que l'équipe de la première mi-temps a peut-être fatigué l'équipe du PSV, oui, qui a permis aux autres de prendre les espaces en deuxième mi-temps. Et peut-être que l'équipe qui a fini, s'il avait débuté, aurait peut-être pas eu autant d'occasions.
D'accord. Et puis après, tu peux aussi regarder certains secteurs et certaines individualités. Un Van Dersen, arrière droit. Oui, je veux bien, mais je le vois tellement bon un poil plus haut. Et quand à la fin, on le voit à 35 minutes de la fin avoir des crampes, et quand il ne peut même pas sauter sur le but vainqueur, ben il y a peut-être un changement qui a pu être maladroit dans un certain secteur. Mais tu sais, Jean-Louis, ces 5 changements, c'est une très bonne chose, mais c'est aussi une complication supplémentaire au coach. Il est déjà pourquoi difficile. Ça me dit, faut pas te tromper dans les 5 changements.
Ah bah oui, mais bon. Les coachs, ils ont justement, ils sont contents normalement des 5 changements.
Ah ben normalement, oui.
Oui.
Mais je te dis normalement, peut-être pas tous.
Hein. Oui, oui, oui. Ouais, tu veux dire que ça fait plus de chances de se tromper.
C'est moins facile de se tromper quand il y a 5 changements que quand il y en a 3.
Aussi. Ah non, il dit que c'est le contraire, Roland.
Oui, mais non, si t'as plus de changements, tu te trompes moins que si t'en avais que 3.
Ah ben non.
Bah ça fait 2 chances de plus de te tromper, quoi.
Ah oui.
Bon, alors, et juste petit point de règlement, parce que c'est quelque chose qui a circulé sur le fameux but de Gutiérrez. Tu sais, ça arrive après une position de hors-jeu d'Embolo, et le coup franc consécutif au hors-jeu est tiré dans la moitié de terrain des Monégasques. Donc du coup, il y a eu au début, on crée un peu au scandale en disant, s'il est hors-jeu, forcément il n'est pas dans la moitié de terrain des Monégasques, donc le coup franc ne doit pas être tiré là, donc il y a vis de forme, etc. Finalement, le point de règlement est très clair, si un joueur est hors-jeu et revient dans sa moitié de terrain ensuite, le coup franc doit être joué là où il a joué le ballon, donc il n'y a aucun litige là-dedans, le coup franc pouvait bien être tiré à ce endroit-là. Et donc le seul truc polémique, c'est le pénalty sur Mbolo.
Ouais, puis je te souligne aussi cette passe au gardien en taclant.
Au tout début de partie.
Ah oui.
Armando Bispo.
Tu m'expliqueras si c'est volontaire ou pas, on fera un débat.
Oui, je vois l'action. Oui,
mais
oui,
attends, mais en plus de ça, tu vois même le défenseur avant de porter son tacle, parce qu'il peut y avoir but, mais il regarde son gardien et il tacle avec l'intention que le ballon arrive à son gardien. Donc pour moi, c'est une passe volontaire.
On va accueillir
Alors
Christophe.
Je ne te dis pas que le coup franc aurait donné but, non, on a oublié.
Tiens, d'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus, Roland. Je pense savoir ce que tu penses, mais c'est pour être sûr.
Allez, vas-y.
Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, oh là, c'est terrible pour Monaco, ça fait 2 ans de suite qui se font sortir avec la réforme de la règle du but à l'extérieur, ils auraient été qualifiés.
L'année dernière, non, c'est 1-0 et 2-2. Ah, après prolongation, non, oui, il y avait 2-1, pardon.
Mais c'est complètement stupide de s'occuper d'un match qui n'est pas du tout le même.
Merci.
S'il y a une demi-heure de la fin, avec un 3-2, que l'année d'avant, tu n'aurais pas été qualifié et que cette année, tu es qualifié, mais c'est pas les 30.
Voilà. C'est pas la même dynamique de match, évidemment.
C'est pas les mêmes 30 minutes.
Je suis content de te l'entendre dire. Voilà. Non, mais parce qu'on entend, c'est terrible. Avec l'ancienne règle, Monaco était qualifié.
Mais c'est quand, par exemple, tu entends aussi, parce que des conneries, j'ai pu en dire, mais j'ai pu en entendre aussi, compte tenu de mon ancienneté. C'est que quand tu vois qu'on peut te dire, il y a eu 3 occasions, ça aurait pu faire 3-0 à la mi-temps. Mais absolument pas.
Oui.
À partir du
si
moment.
Si tu mets le premier.
Tu mets le premier, c'est un autre film.
Ah, mais
tu n'es pas
bien
sûr qu'il y ait le deuxième, tu es encore moins sûr qu'il y ait le troisième. Eh ben non, tu l'entends quand même. On aurait pu mener 4-0 à la mi-temps parce que tu as eu 4 occasions.
Je suis content, j'avais peur de ne plus comprendre mon coach Courbis en revenant de vacances, mais j'ai tout bien en tête encore. Ça me rassure.
Par moment, j'ai mal à la tête moi aussi, là, surtout après cette année. Ces 2-7, là, ça n'a pas été simple.
L'élimination de Monaco est-elle injuste? On va continuer le débat dans une seconde avec Christophe qui patiente au 32-16. On va vous donner la parole, supporter monégasque, dans Roten sans flamme. On est de retour en direct autour de la reprise de la Ligue 1. C'est une sorte de grand échauffement de la saison avec coach Courbis. Jérôme est tranquille en vacances et il est de retour à partir du 22 août. Mais il y a les rendez-vous indéboulonnables de Roten sans flamme qui sont à venir, notamment Faites entrer l'accusé, Julien Cazard, le ring des supporters, le quiz également tout à l'heure. Coach qui a gagné le quiz hier. On va voir s'il est capable de faire le doublé.
Ça a l'air de te surprendre.
Non, pas du tout. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h15 sur RMC, c'est Rotten sans flamme avec Coach Courbis ce soir jusqu'à 20h. Manchester United sera accusé de faire une erreur en prenant Adrien Rabiot, sera tout à l'heure à 18h30. On sera également en Angleterre, au sud de Manchester, à Chester, où a lieu depuis aujourd'hui le procès de Benjamin Mendy. On vous dira ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qu'il faut en retenir, ce sera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est sur Monaco. L'élimination d'hier au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions était injuste. On est toujours avec Arnaud Valadon qui a commenté le match hier à Eindhoven. Et on accueille Christophe, supporter monégasque, coach. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs.
Salut Christophe.
Ben, on s'était eu la semaine dernière après le match nul. Et j'étais au stade et je vous avais dit, il faut quand même se méfier des Hollandais qui aujourd'hui en Europe, on se rapproche du coefficient européen de plus en plus près de nous. Et au vu des dernières années, eh ben, ils sont quand même meilleurs. Après, si on revient à ce match-là, Clément, il tente et il fait tourner son effectif, une partie de son effectif samedi à Strasbourg pour que nos fameuses stars, entre guillemets, les Golovin, les Ben Yedder, les Volants, les Minamino, qui sont quand même des internationaux.
Minamino, toi aussi t'as du mal.
Ouais, Minamino, pardon, excusez-moi, je le connais pas encore, mais bon, il a quand même un beau CV.
Pour le moment, c'est Mino Mini.
Voilà, ouais, c'est minimaliste, quoi, pour l'instant. Et il est fait reposer, et à la sortie, ben, c'est eux qui perdent le match, ou qui le gagnent pas, surtout. Parce que, une première mi-temps, comme ils ont pu effectuer ces joueurs-là, sachant, comme tu as dit, Roland, qu'il y a quand même 5 changements. Alors, c'est un risque de faire 5 changements. Mais quand on voit qu'au bout de 40, 45, 60 minutes, Clément est obligé de changer ses 4 attaquants, je crois que j'ai jamais vu ça dans une équipe de foot au niveau européen.
Est-ce que tu penses qu'il est obligé? Ou est-ce que c'était prévu comme ça de se partager, le boulot?
Pour moi, ils sont pas à la hauteur. Moi, j'étais au match aller. C'est des joueurs, physiquement, ils ne sont pas encore prêts.
Alors, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre ton mécontentement. Au match aller, cette équipe qui a démarré hier, oui. on a vu que les 45 premières minutes étaient insuffisantes et très moyennes. Donc, tu remets la même et qui est à nouveau insuffisante et très moyenne, je trouve.
Sauf que tu as joué un gros match samedi en pleine chaleur à Strasbourg et qu'on est en début de saison et tu connais un effectif, il faut quand même le ménager parce qu'il y a les premiers risques de blessures musculaires qui arrivent très tôt dans la saison et je pense qu'il fait confiance à des joueurs qui ont normalement la capacité et l'expérience à l'extérieur dans une ambiance assez chaude là-bas pour faire la différence et c'est ces joueurs-là, moi que j'en veux à ces 4 joueurs-là de ne pas avoir fait la différence. On rentre à la mi-temps avec 0-1 comme match aller. Donc, quand il fait ce changement, il fait rentrer le jeune Mbolo. Le jeune Mbolo, en 10 minutes, il avait déjà fait plus que les 4 attaquants.
On est d'accord.
Ah ouais. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'il vient à peine d'arriver, ce jeune-là.
Diatta a porté plus. Aussi, Gelson Martins
oui, voilà.
aussi.
Donc Diatta, il revient de 1 an de blessure, il faut le savoir, il n'a pas joué depuis 1 an. Hein. Il s'est fait une rupture des ligaments, il n'a pas joué de 1 an. Il revient à peine, il avait joué à Strasbourg quand même, où c'est lui qui débloque la situation. On fait rentrer, en fait. Après, on peut pas s'attendre à des miracles quand nos leaders, ne font pas la différence. La génération de Julie, il n'y avait pas de stars au début quand elle commence la Champions League. La génération de Mbappé, il n'y avait pas de stars, sauf que les mecs ils étaient à 150%. Sur un match de Ligue des Champions, si on ne rehausse pas son niveau, on ne peut pas passer. C'est
mais
pas possible.
Autre chose, je crois que dans une réussite, c'est-à-dire une qualification, eh bien, on salue et on félicite tout le monde, pas seulement les joueurs, le staff, les dirigeants, etc., etc. Mais dans une élimination avec un Tchouaméni qui n'a pas été remplacé, avec 2 arrières centraux qui sont très, très moyens, et Monaco qui est à la recherche, justement, au moins d'un arrière central, si c'est pas 2, eh ben, tu es éliminé en début du mois d'août contre une équipe dans un tour préliminaire dont tu étais quand même au courant. Donc c'est là, on va parler des changements, on va parler de la première mi-temps, on va parler de la deuxième mi-temps, des prolongations, etc. Ok, mais de Tchouaméni qui a brillé par son absence, on peut en parler 2 secondes quand même.
Et rien sur le gardien? Parce que le gardien, il a le droit de sortir aussi à un moment.
Ben oui, mais bon, ce gardien, écoute, il a progressé parce que de très mauvais, il est passé à moyen. Donc,
on dit rien, mais bon, ça reste moyen.
C'est déjà pas mal, mais ça reste moyen.
Justement, il y a des conséquences sur le mercato, cette élimination, Arnaud?
Le fait qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions, c'est déjà une manne financière en moins. C'est 15 millions le ticket d'entrée et après, en fonction, victoire ou nul, vous prenez. Donc c'est sûr que l'AS Monaco, qui a déjà vendu Tchouaméni pour un très gros montant, là, d'être enfin fixé, de savoir que c'est Europa League, forcément, ça va changer des plans. Alors l'arrivée de Malang Sarr en défense centrale est vraiment dans les tuyaux, c'est déjà payant. Mais est-ce qu'ils vont faire un autre défenseur central? Il y avait une piste Eric Bailly, ça reste à confirmer, sachant que on semble se diriger vers quand même une organisation à 3 centraux, vu le monde qu'il y a. Benoît Badiachil, quid de Benoît Badiachil qui se remet d'une blessure, c'est pour ça qu'il n'était pas là hier, mais il y a des gros prétendants en Europe. Est-ce que Monaco va pas finir par lâcher, parce que sans Ligue des Champions, évidemment un joueur comme Badiachil a envie de la jouer pour progresser, pour se montrer. En plus, on est dans 6 mois avec une Coupe du Monde, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Au milieu de terrain, le remplaçant de Tchouaméni hier, on avait la paire Matadzo, Youssouf Fofana qui était très bon, très mais bon hier, pendant le match on se disait et il manque peut-être ce milieu qui allait percuter. Il y a dans les rumeurs Boubacary Soumaré, l'ancien Lillois aujourd'hui à Leicester, mais est-ce que ça correspond totalement au profil d'un Tchouaméni? C'est peut-être un peu plus défensif, mais voilà, il est forcément...
C'est déjà peut-être un petit peu supérieur à Matadzo.
En tout cas, ça vient densifier effectivement ce milieu de terrain orphelin du départ de Tchouaméni, mais l'AS Monaco reste quand même pourvu devant, hein, Volland, Ben Yedder, Brel Mbolo qui a fait une bonne entrée hier, l'international suisse.
8 à 9 attaquants pour 4 postes.
Forcément, pour jouer l'Europa League, il faut quand même être doubler les postes, mais on est moins attractif que pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, pour Paul Mitchell et la direction sportive, ça va rebattre des cartes. Alors on parle de Philippe Clément, parce qu'on se souvient que l'année dernière, c'était le début de la fin de l'ère Kovac, cette élimination contre Shakhtar. C'était quelques semaines plus tard. Mais ce fut un point de rupture, un début de rupture.
Aussi du côté de Monaco et aussi du côté de Marseille, à quoi a pu tenir la qualification de
Monaco. On en parlait justement.
Ça a tenu à un but à la dernière minute. Comme hier, le match il se joue à la 89e minute.
Alors, on va arrêter là sur Monaco. Tu voulais ajouter un mot, Arnaud? Non, c'est bon. Très bien. Alors, merci Arnaud d'être venu. À très vite. On remercie Christophe également qui est venu au 32-16. À bientôt sur RMC, Christophe.
Merci et bonne soirée à vous.
32-16, un supporter de Monaco, faites comme Christophe, venez nous dire ce que vous avez sur le cœur après cette élimination donc de votre équipe. Oui,
j'ai un truc à rajouter, puisque Clément Brossard vient de m'envoyer un petit message, il suit Monaco.
Qu'est-ce qu'il vient, celui-là?
C'est officiel pour Malang Sarr, prêt avec option d'achat.
Très bien. Impeccable.
Mais c'est une très bonne pioche, ça, je trouve, mais au poste d'arrière central, pas comme il était utilisé à Nice, à latéral.
Alors on laisse Monaco de côté et on va tout de suite en Angleterre. On va tout de suite à Chester, même précisément au sud de Manchester. On retrouve Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Salut Nico.
Salut à tous.
Début aujourd'hui Nico. Du procès de Benjamin Mendy que tu suis, donc le champion du monde qui a plaidé non coupable. C'est ce qu'il faut retenir de ce premier jour.
Oui, on l'a vu arriver ce matin, il était à peu près 10h50 heure anglaise, 11h50 heure française. Il est arrivé dans une berline, il est sorti avec son costume sombre et sa cravate. Il s'est pas éternisé devant l'ensemble des photographes et des caméras qui étaient présents juste devant l'entrée de la cour de Chester, ici au sud de Manchester. Et donc Benjamin Mendy est rentré dans la salle d'audience numéro 1 et il a décliné son identité. Déjà cette scène était assez impressionnante car on a vu un Benjamin Mendy très sérieux, on l'avait quand même l'habitude de le voir de bonne humeur, c'était un peu l'ambianceur de l'équipe de France en 2018. On retient quand même sa bonne bouille, hein, celui qui rigole à chaque fois. Ben là, il était très sérieux, il a décliné son identité et derrière, le juge qui faisait face à Benjamin Mendy lui a décliné un nouveau viol à son encontre. Et donc Benjamin Mendy a plaidé une nouvelle fois non coupable. On le rappelle, il y a 10 faits présumés à l'encontre de Benjamin Mendy, 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Et donc Benjamin Mendy vient à l'instant de sortir de la cour de Chester, ici au sud de Manchester, et ça va durer comme ça pendant plusieurs semaines.
Oui, c'est ça, on est parti sur
un très long procès. Ça pourrait durer plus de 10 semaines. La justice anglaise prend son temps dans ce dossier très compliqué, hein. Certaines personnes proches du dossier nous le disaient, c'est quand même un dossier très compliqué car on parle en fait de l'aspect du consentement et donc c'est tout le temps très difficile à démontrer dans les faits.
C'est-à-dire que si on a bien compris, donc on plaide coupable ou non coupable, un petit peu comme en Amérique, et il suffirait simplement qu'il y ait un dossier avec la démonstration ou l'interprétation qu'il est coupable pour que justement tout tombe à l'eau.
C'est exactement ça, coach. Et on peut aussi le signaler, c'est que dans les faits, en fait, ce qu'on lui reproche à Benjamin Mendy correspond à l'article 1 de la loi sur les délits sexuels en Angleterre, et donc ça entraîne la perpétuité en tant que sanction. Dans les faits, on a demandé à plusieurs avocats spécialisés dans le droit anglais. Il pourrait prendre entre 5 et 20 ans de prison. Tout dépend aussi des dossiers pour lesquels il est inculpé, et tout dépend aussi à la fin de ce qui reste de ce dossier. Mais voilà, entre 5 et 20 ans de prison, c'est ce que risque Benjamin aujourd'hui en Angleterre.
Ok, ben merci Nico pour ces infos.
Salut Nico.
Et évidemment, on vous relaie les infos que tu as sur rmcsport.fr. Dans une seconde, Manchester United, on revient au foot, est accusé de se tromper avec Adrien Rabiot. Le transfert n'est pas fait, mais il fait déjà grincer des dents les supporters de Manchester United. On vous explique pourquoi dans une seconde dans Rotten sans flamme. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h30 sur RMC, Rotten sans flamme est de retour avec coach Courbis. Ce sera comme ça jusqu'au 22 août, coach. Tu seras là comme Mathieu Bonnemer qui était là les deux jours précédents. Lionel Charbonnier aussi sera de passage dans ce Rotten sans flamme de l'été. Il y aura un quiz, je le rappelle tout à l'heure, avec des places pour Nice-Strasbourg à gagner. Donc vous pouvez vous inscrire en envoyant top par SMS au 732-16.
On va essayer d'en récupérer une pour Gilbert.
Deux clubs que tu n'as pas entraînés.
Ah ben non.
C'est un événement. Quand bah ouais. Si t'as un match, t'as ni joué ni entraîné dans les deux.
Ben bah oui.
C'est dingue ça.
Mais par contre, je jouais contre.
Ah oui.
T'es entraîné contre.
Bah oui, bien sûr. Ce sera tout à l'heure le quiz, donc vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. On sera aussi avec Thomas Mangani tout à l'heure, le milieu d'Ajaccio, puis on reviendra sur la conférence de presse d'Alexis Sanchez. C'était il y a quelques minutes. Si vous ne l'avez pas suivi, rendez-vous à 19h avec Florent Germain. Et puis Julien Cazard sera là pour le meilleur du Cazard enchaîné dans un quart d'heure. Mais tout de suite, Adrien Rabiot.
RMC Rotten sans flamme.
Faites entrer l'accusé.
Alors si vous écoutez RMC Rotten sans flamme pour la première fois, c'est possible, hein, vous êtes peut-être en vacances dans un endroit où vous captez pas les radios habituelles et donc vous tombez sur RMC. Et ben c'est comme ça tous les soirs à 18h30 tout au long de la saison, on fait entrer l'accusé. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt un acteur du foot et on en débat, chacun défend ses arguments, et ce soir c'est donc Manchester United qui est accusé de faire une erreur si le club venait à se tourner vers Adrien Rabiot. On pose cette question car cette arrivée ne plaît pas aux supporters de Manchester United. On précise que rien n'est fait, hein. Même si on parle d'un accord entre le club anglais et la Juve, pour l'instant il n'y a pas eu d'officialisation, et on va essayer de comprendre déjà la réaction des supporters de Manchester avec Salim Bangali qui nous rejoint. Salut Salim.
Salut Jean-Louis, salut coach.
Salut Salim.
Salim, la voix, le visage de la première ligue en France depuis 10 ans, 15 ans.
Oui, au moins.
C'est magnifique. Sûr. Alors explique-nous pourquoi les supporters de United réagissent comme ça.
Alors il faut bien visualiser, pour ça il faut bien visualiser le contexte autour notamment du dernier match de Manchester United, c'était dimanche dernier, le fameux, ouais, United Brighton. Avant ce match-là, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu une grosse manif des supporters avant le match, comme bien souvent à Old Trafford, manif des supporters contre les propriétaires, les Glazers. Donc déjà, ça vous permet de comprendre un peu le contexte un peu négatif. Le cas CR7, Cristiano Ronaldo, je reste, ouais, je reste pas, j'ai envie de rester, finalement
pour
je vais pas partir.
Pour améliorer l'atmosphère, ouais. D'accord.
Voilà, donc ça, tout se passe bien. Il y a le match, la défaite, l'humiliation à domicile face à Brighton de Buzyn.
La grande équipe de Brighton.
Exactement. Donc déjà, là, vous avez un combiné absolument parfait. Et puis, quelques heures après, vous avez des rumeurs qui sont lancées. Aïe. Alors, au début, on se dit des rumeurs, et au final, ça s'est avéré être un peu vrai, entre Adrien Rabiot, Marco Arnautovic. Alors, je rappelle, Arnautovic, ancien attaquant autrichien, ancien attaquant de Première Ligue, à Stoke, à West Ham, qui aujourd'hui est à Bologne. Et Arnautovic, si vous voulez, à Manchester United, s'il y a bien un joueur qu'on ne veut pas, c'est lui. Parce qu'on se dit, mais chez les fans, mais attends, c'est un attaquant qui est du passé. Nous, on veut des bons joueurs, des grands joueurs, des grands noms, etc. Et comme Rabiot, il est lié, entre guillemets, à Arnautovic, puisque les rumeurs sont tombées en même temps, on s'est dit, mais on veut ni d'Arnautovic, ni de Rabiot. Ça donne surtout cette sensation de panic buy, alors qu'on est pourtant que le 9-10 août. Il y a quelques années, c'était Arsenal qui le faisait souvent, où même avant club, c'était Liverpool qui le faisait souvent, mais que United aille dans ce délire du panic buy, ben si vous voulez, vous avez tout ça qui est lié, et on se dit, mais ce Rabiot-là, on n'en veut pas de ce mec-là, on n'en veut pas côté supporter, quoi.
Roland, tu penses que Manchester ferait une erreur en prenant Rabiot ?
Disons que bon, ça dépend avec quel yeux on regarde ça. Si évidemment, tu prends un joueur qui est pour moi un bon relayeur, mais avec des stats moyennes, mais qui fréquentent quand même très peu l'infirmerie, ce qui est quand même une chose très importante si on fait la comparaison avec Pogba. Donc voir un radio, je vais répondre par une question sur le plan footballistique du très haut niveau, sur une note qu'on s'amuse des fois à mettre à la suite des matchs, mais sur la valeur de Rabiot, vous lui mettez quoi tous les deux comme note? Après je vous dis la mienne.
Moi je mets 5.
Non, sur 20.
Bah 10.
Bah 10.
Non, toi,
la moyenne.
Toi tu mets plus? Toi, tu mets 13.
Ah, je mets quand même 11 ou 12.
Mais vous voyez, ouais, ces notes-là, indirectement, c'est Sky Sports, nos confrères de Sky Sports, qui se sont amusés, mais vous allez comprendre, hein, à comparer Adrien Rabiot, potentiel milieu de terrain, aux autres milieux de terrain actuels, Scott McTominay et Fred. Là, quand je le dis comme ça, on dit Rabiot est largement au-dessus. Sauf qu'ils ont pris les caractéristiques défensives de ces trois joueurs. Et défensivement, tout ce qui est tacle, interception, duel gagné, eh bien, sur toutes ces statistiques-là, Fred et McTominay sont largement au-dessus d'Adrien Rabiot. Après, qu'est-ce qu'on demande aussi aux joueurs? Est-ce que Eric Ten Hag veut une muraille devant ses défenseurs
ou des joueurs qui veulent se projeter? Avec Rabiot, donc tu vas pas rajouter dans les stats ni les buts ni les dernières passes, donc tu vas trouver peut-être c'est mieux votre note 10. Moi je suis peut-être un peu généreux avec 11 ou voire 12, mais allez je reste à 11 quand même.
On n'est pas loin quand même, ouais. mais donc à l'arrivée tu prends un joueur qui fait pas la diff par rapport à ce que tu as déjà. C'est ça qui plaît pas aux supporters.
C'est ça, c'est pour ça que les supporters, je vous ai donné ces stats Sky Sports qui ont vraiment résonné très négativement dans les oreilles forcément des supporters.
Mais je fais toujours, excuse-moi de te couper, la différence entre une recrue et un renfort. Donc pour les supporters et tout à fait logiquement, Rabiot c'est une recrue.
C'est ça.
C'est pas obligatoirement un renfort, mais ce qu'on ne sait pas et on a pu s'en apercevoir pour des tas de fois, c'est que par moment, un joueur trouve le bon endroit, les bons coéquipiers, le bon contexte, le bon entraîneur, et on se retrouve avec un joueur qui ne ressemble plus du tout à celui qu'on a connu à la Juve. Ça peut être ça aussi, mais ça, évidemment, qu'avant de le voir, si on te demande si tu es content de la venue de Rabiot, c'est quand même tout à fait normal que tu ne sortes pas de joueur, que tu ne fais pas des sauts périlleux.
Je reparle également de ces fans de United qui, pour certains, ne connaissent pas forcément Rabiot, ne le voient pas semaine après semaine, et qui donc se basent aussi sur les articles de la presse locale. Par exemple, certains remontrent ce qu'était Rabiot au PSG. Sous-entendu sa fin d'histoire au Paris Saint-Germain, sous-entendu sa gestion des cas. Ça a été ces dernières années aussi le problème à United, la gestion des cas, la gestion des joueurs un peu compliqués. Si Adrien Rabiot a cette image auprès des supporters, cette image qu'il avait au Paris Saint-Germain, sous-entendu une gestion difficile de son cas, les supporters ne vont pas aussi l'aimer. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui les fans ne veulent pas forcément de lui. Et dernière chose importante aussi, je vous rappelle que le nom qui était régulièrement évoqué avec Eric Ten Hag, c'était Frenkie de Jong. Pendant des semaines et des semaines et des semaines à United, on a de cesse parlé que de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, la nouvelle pépite au milieu de terrain, pour au final être sur une solution B, C, D, E, choisissez la lettre que vous voulez, pour Adrien Rabiot. Donc tout ça fait que vous le visualisez semaine après semaine ou pas, les supporters de United, ils disent, mais Rabiot, on en veut pas. Et je vais même aller plus loin, cette politique de transfert de United, on n'en veut pas.
C'est sûr que si tu avais mis comme duo Alan et Rabiot, donc je pense que tout le monde aurait sauté.
Non, attends, je l'ai pas. Alan ?
Fred.
Alan, le numéro 9.
Hollande,
il faut prononcer.
Oui, ou Hollande. La Norvégienne Hollande.
Il dit Alan, excusez-moi.
Non, je croyais que tu parlais de l'ancien milieu de Naples.
L'ancien milieu de terrain de Naples.
Non, bref. Non, mais au moins,
il a signé à City avec les possibilités financières de Manchester United. Après, peut-être qu'il n'aurait pas voulu. Mais si, par exemple, ils avaient réussi à faire ce duo, je crois que ça aurait aidé Rabiot.
Oui, sans doute, t'as raison.
C'est impossible.
Mais il y a Cristiano Ronaldo à United, donc ils n'allaient pas signer à Londres, attends.
Il demandait la permission à Ronaldo.
Eh oui. Romain nous rejoint au 32-16, supporter de Manchester. Salut Romain.
Salut Jean-Louis, salut Saline.
Salut Romain. Salut.
Toi Rabiot, ça te plaît ou pas?
Oui et non.
C'est plutôt non, vu le rire au début, non?
Ouais. En fait, si vous voulez, c'est vrai que nous, de vue de France, on connaît le joueur. Donc on sait que on connaît les caractéristiques du joueur, on sait que voilà, c'est pas un joueur qui marque les esprits. Mais j'ai écouté votre votre débat et moi je pense qu'il est plus comme une espèce de joueur pour faire le nombre plutôt que la recrue attendue. Je pense, hein, après je peux me tromper, mais moi c'est mon point de vue sur la question. Parce que tout à l'heure Saline disait que le cas Frenkie de Jong traîne, c'est très compliqué, très long, il vient pas, on sait pas, c'est très compliqué. Et je pense que les dirigeants de Manchester, je pense qu'ils ont vu ensuite par rapport au match qu'il y a eu ce week-end, c'était une catastrophe le duo Max-Fred. On n'en peut plus, c'est ce duo, voilà, l'année dernière c'était le pire de la première ligue, cette année ça commence pareil sur les mêmes bases, et je pense qu'ils ont besoin d'avoir, je pense, on sait que techniquement il est propre, c'est quand même un joueur qui est techniquement assez habile avec le ballon comparé à Fred et McTominay, donc je pense que il va venir plus dans le contexte de faire le nombre dans la rotation plutôt que d'être un titulaire. Je pense c'est mon
avis. Tout à l'heure on parlait d'une époque que nous traversons avec les cinq changements. Quand tu es Manchester United, il te faut, allez, si tu joues avec trois milieux dans le 4-3-3 classique, il y a pas plus simple. Eh ben il te faut six joueurs de très haut niveau, voire trois de très haut niveau et trois de bon niveau pour justement se partager le boulot. Eh ben Rabiot, il fait partie de ces six joueurs, voilà. Mais après, si tu me dis que Rabiot aussi à Manchester, ben je vais pas me l'imaginer comme l'un des trois meilleurs joueurs de Manchester. Oui. Si je me mets à la place des supporters.
Et c'est ça, parce que pour les supporters, c'est aussi, attends, si je fais venir ce joueur, alors les dirigeants veulent le faire venir quoi, comme étant dans la rotation, mais nous on a besoin de joueurs aujourd'hui. Parce que McTominay, Fred, et ça a été dit à l'instant, ils n'y arrivent pas, les deux au milieu de terrain, ça ne marche absolument pas, en tout cas dans ce nouveau United là. Le problème, c'est que si Rabiot, c'est pour faire simplement de la rotation, ben, il va y avoir un vrai problème au milieu de terrain.
Et Ronaldo, ça bouge ou pas?
Statu quo, j'ai envie de dire, avec toujours ces fameuses rumeurs comme quoi lui voudrait toujours partir pour réussir à rejoindre un club qui jouerait la Champions. Sauf qu'on le rappelle, United n'est absolument pas vendeur le concernant. United veut absolument le garder. Parce qu'au final, offensivement parlant, je le rappelle, au poste de numéro 9, et ça aussi, c'est un autre dossier important à United, il y a Anthony Martial qui était blessé sur le dernier match, mais qui va revenir très vite. Et CR7 au final. Sinon, il n'y a personne d'autre à United. Et c'est aussi une autre galère pour les Red Devils.
Ils veulent pas Icardi? United?
Non, ils veulent des joueurs quand même qui peuvent jouer.
C'est quand même incroyable avec les possibilités financières qu'ils peuvent avoir.
C'est ça.
Être aussi mauvais dans le recrutement.
C'est vrai que c'est incroyable.
Donc, c'est comme s'il a un cousin, et il peut le placer. Là.
T'as raison. Ouais, Romain, vas-y, coach, t'écoutes.
Non, je dans les coachs qui disaient par rapport à la surface financière que le club a, je suis d'accord avec lui, mais le souci, c'est que, je ne sais pas si tu as entendu par rapport au dossier Fesco, le joueur de Salzbourg.
Oui.
Qui va signer à Leipzig pour à peu près une vingtaine de millions d'euros. Mais quand United était dessus et voulait le faire, on parlait déjà plus de 50 à 60 millions d'euros, voire même plus.
Oui, c'est le handicap d'être riche.
Et oui, ça je suis d'accord.
Ah, et puis tu ne peux pas comparer avec Salzbourg, Leipzig, ils sont des prix d'amis entre eux, c'est le même club, c'est le même propriétaire.
C'est pour ça que c'est compliqué, de, si vous voulez, de, si vous, ça c'est compliqué dans ce marché de transfert d'être, pas actif, mais d'être... on va dire d'être crédible, parce que c'est vrai que direct on sait que c'est un grand club, mais c'est pareil pour Paris, pour City, pour n'importe quel autre grand club. Hein. Donc dès que ce club est intéressé, ben direct le tarif il monte. Et après
il vaut mieux avoir de l'argent et que le tarif monte que de ne pas avoir d'argent. Quand même.
Ah c'est sûr, je suis d'accord. Et pour revenir par rapport à l'histoire du milieu de terrain, moi je pense personnellement que un milieu de terrain avec Van de Beek, c'est meilleur que Fred McTominay, même Eriksen si on le met en milieu de terrain. C'est meilleur que McTominay et Fred.
Ouais.
Et c'est pour ça que je vous disais que Rabiot, je pense qu'à mon avis, il va venir vraiment dans la rotation.
Okay.
Je pense.
Oui, et le montant, hein, parce que
on parle d'une vingtaine de millions d'euros.
Voilà, donc comme le même qui a signé Leipzig.
Ouais,
c'est ça pour Cesco, effectivement. Ouais,
et pour combien d'années de contrat?
Ça, on l'ignore pour l'instant, parce que c'est pas encore officiel.
Rabiot, il lui reste un an à la Juve.
Non, voilà. Donc 20 millions pour un an, mais c'est
beaucoup, non?
C'est énorme.
Ah
oui, Romain.
C'est le prix là d'un joueur qui
la jeune, 15
ou 16 sur 20, pas 11.
Romain.
Oui, je dis, il ne faut pas oublier que Mata est parti, qui était en fin de contrat, qui était un milieu de terrain. Matic est parti, qui était un milieu de terrain, qui n'était pas en fin de contrat, mais que le club a libéré. Donc il y a déjà
oui, ça revient à ta théorie de faire le nom. Ok.
Exactement.
Romain, merci d'être venu au 32-16, donner ton avis.
Salut, Romain.
À très bientôt.
Merci.
Tu reviens quand tu veux sur RMC. Pareil pour toi, Salim.
Au plaisir. Et vraiment, United va devoir faire ce qu'il faut sur ce mois d'août. Je rappelle, deuxième journée ce week-end à Brentford et troisième journée déjà contre Liverpool pour United.
Oh là là là.
Salim, on te retrouve. On te retrouve ce soir à la télé sur RMC Sport 1, puisqu'il y a la Super Coupe d'Europe entre le Real et l'Eintracht Francfort. On en reparlera, nous, tout à l'heure à 19h30. Merci, Salim.
Ciao.
On se demandera d'ailleurs si Benzema peut faire une meilleure saison que l'année dernière. C'est ce qu'il a annoncé. Mais vu ses standards de la saison dernière, ça paraît compliqué. On en débattra tout à l'heure à 19h30 dans le ring des supporters. En attendant, dans une seconde, c'est le moment de 18h45 dans Rotten sans flamme. C'est le Casar enchaîné de Julien Casar. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h20h, Rotten sans flamme,
Jean-Louis Tour.
Rotten sans flamme est là en direct, comme tous les soirs pendant les deux semaines qui viennent. Jérôme sera de retour le 22 août, mais l'émission est là avec ses rendez-vous habituels. Le ring des supporters tout à l'heure autour de Benzema, le quiz à 19h45. On sera également en deuxième heure avec Thomas Mangani, le milieu de terrain d'Ajaccio, pour nous parler du retour du club corse dans l'élite. En plus de cela, la présentation d'Alexis Sanchez, c'était il y a quelques minutes. Si vous n'avez pas pu suivre ça, Florent Germain vous dira ce qu'il faut en retenir. Ce sera tout à l'heure, mais tous les soirs, c'est le cas tout au long de la saison dans Rotten sans flamme, avant 19h, c'est le moment de Julien Casar.
RMC, Rotten sans flamme,
le Casar enchaîné.
On abordera la Ligue des Champions. Ce soir, match événement à Bernabéu, le Real contre Chelsea. Mmh. Le match retour, évidemment. Ce soir, c'est Tuchel qui joue sa crédibilité, pour qu'on ne dise pas que c'est l'homme d'un semestre et qu'à chaque fois qu'il a fait une grande saison, il fait une dinguerie. C'est Thomas Tuchel, hommage.
Moi, je ris de Paris. Quand je vois le Ney et le Kiki, je laisse le club à la dérive. Galérer contre Lens, Rennes et Lille, je me casse avec un chèque de sa mère. Je vous laisse dans la merde et c'est dans le cul Nasser. Je suis Thomas Tuchel. Oh oui, Thomas Tuchel. J'ai niqué la Tour Eiffel. J'aime quand mes joueurs prenaient l'eau. Je suis trop maso ou sadomaso. Ah. Arrivé à Chelsea, y avait rien à faire, c'est du tout cuit. Lampard avait fait l'essentiel. Deux, trois retouchés, l'histoire est belle. Un peu de chatasse, ça gagne, mais je sais bientôt qu'il faut que ça pète. Sinon très vite, je m'emmerde. Je suis Thomas Tuchel. Tu le tiens. Oh, oui, je me kiffe moi tout seul. Si ça marche trop, je fais la gueule. Je vous l'ai dit. Je suis maso, sado, maso, oui sado, maso. Oh yeah, bon, là. Vas-y, fouette. Vas-y, frappe. Oh yeah, y'a ça que c'est bon. Un Lukaku, on peut pas. Sur le banc, hein, c'est bien sur le banc.
C'est pas parce qu'on est en chanson qu'on peut utiliser n'importe quel vocabulaire. Avec la Tour Eiffel, par exemple, on aurait pu trouver un autre mot avant.
C'est pas
même
faux.
En chanson. Voilà. Merci.
Je crois que pendant ce temps-là, à Paris,
oui.
Ça marque des buts. Et il y a encore eu des triplés de Neymar et des et triplés voilà. De Messi. Et non. Je pense qu'un
Mbappé.
Messi a mis un triplé en passe décisive, monsieur. Ah. C'est pas toi, tu renies les triplés de passe décisive ?
Non, pas du tout.
Voilà, j'ai repris. Voilà. Et tout le monde est content. Mm. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut remettre tout le monde à plat. C'est Gros Samir.
Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille.
Oh, mais j'ai voulu bien encore avec l'affaire Luis Trio de Val. Mais suce-le, Neymar. Suce-le, Messi. T'as pissé dessus en train de te faire apparaître. Toi, tu te saignes. Mais dimanche, Sergio Ramos, Bacambou, il va lui faire le cul, gros. Mais tiens, battu Clermont. Mais que c'est la péaste de la Ligue 1. Même les potes à Jean-Louis Tour du Barbecue Club, ils le battent. À 2-1, tu te chiais dessus. Tu as eu un péno que même les mecs de McKinsey, quand ils l'ont eu, ils ont eu honte, gros. Que même eux, ils ont eu honte. Et tiens, battu Lorient au parc avec une horde de footix, ce qui a fait là en tournant les serviettes. Comme un mariage de Tata Fatima. Et tu te saignes parce que Sergio Ramos, il a bloqué l'autre paralympique au pied carré de Kawi, qu'on l'a eu, qu'on le sait. Oh, mais ferme ton cul.
Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du Gros Samir, baby à Marseille.
Mais pareil, je croyais qu'il m'avait recadré sur le vocabulaire.
Mais vous allez trop loin. Vous parlez que de Paris. C'est que le mec Gros Samir, il est vénère. On va finir. Ah, j'ai une dernière chose. Je crois que ce soir, le match sera commandé par Jeannot Réseillé, je crois.
Bien sûr.
Une légende. Jeannot, la voix d'RMC. Jeannot qui vous fait vivre le match depuis maintenant tant d'années avec ce professionnalisme. Et surtout, cette humilité qui le caractérise, c'est la leçon d'humilité de Jeannot Réseillé.
Avec les cachots la jaunie et le restaurant Papy Fayot à Montauban. Papy Fayot. Oh, ça gaze en cuisine.
J'apporte, j'espère, du bonheur, ma passion, de l'émotion aussi, de l'envie d'aller plus loin dans l'écoute. Moi, je suis assez fier quand on me dit je me régale à vous écouter, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. I believe I
can fly. C'était où ça?
C'était c'est formidable, sur c'est magnifique, c'est magnifique.
Non, c'était c'était après un arc foot.
Visiblement, on me dit que le sponsor n'est pas content parce qu'on a parlé de lui qu'une seule fois. Ah. Je crois qu'on peut dire que c'était la leçon d'humilité de Jeannot Réseillé.
Avec les cachots la jaunie et le restaurant Papy Fayot à Montauban. Papy Fayot. Oh, ça gaze en cuisine.
Nous reviendrons évidemment sur cette nouvelle importante du week-end qui a glacé les supporters parisiens. Ah. Et oui, hier 20h, dimanche à 20h, c'est officiel. La dernière chance de pouvoir re-signer Kylian Mbappé et acheter De Ligt, Pogba, Ousmane Dembélé s'est envolée. En effet, à 20h, la France a mis fin à ce rêve, souvenez-vous.
Puisque vous le savez, j'exonère tous les moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Quel que soit leur revenu, je veux que nos jeunes restent.
On y a cru, Jean-Louis. Jean-Louis, on y a cru jusqu'au bout, malgré la propagande, n'est-ce pas? Pardon, et la cabale des médias mainstream, nous étions les derniers, avec Pierre Dorian, à soutenir la candidate RN, car grâce à son projet de ne plus imposer les moins de 30 ans, ça nous permettait de construire une vraie équipe. Mais ça dérange! Et je sais que tu as été irréprochable, Jean-Louis, on m'a dit, que tu as continué à coller des affiches à Compiègne jusqu'à 19h58. Pierrot, lui, Pierre Dorian s'est battu seul contre 7 macronistes à l'entrée du bureau de vote dans le 19e arrondissement. Bon, en même temps, tous plus de 75 ans, donc évidemment, il a tapé un avec le déambulateur de l'autre. Les 5 derniers, il a toussé en criant « Je suis pas vacciné », ils sont morts d'une attaque cardiaque. Mais et malheureusement, ils ont eu le temps d'aller voter avant. Bref, Macron a est repassé, nos rêves se sont évanouis, Jean-Louis. Non. Nous reviendrons bien sûr sur ce titre du Paris Saint-Germain. Enfin une soirée de fête, enfin, enfin. Ça a été compliqué, mais le PSG a été champion de France. On peut le dire comme, oui, ça a été laborieux, mais et oui, quand même, à 15 journées de la fin, c'est pas rien d'être champion. Hein, et pour une fois, l'after était en mode célébration. Et il faut savoir qu'à chaque année, le jour où ça célèbre, on fait un after spécial sur le, voilà, comme pour Lille ou comme pour Monaco avant. C'était magnifique. C'était une soirée de gala. On va profiter de ce titre. C'était vraiment sympa. Écoutez.
Il faut qu'ils comprennent que le club se meurt de ce qui est en train de se passer et que leur incompréhension, puisque visiblement ils ne veulent pas comprendre, et s'ils ne comprennent pas, pour moi, franchement, c'est qu'ils sont bêtes, mais ils ne comprennent rien, c'est des ignorants. Ils devraient même pas regarder le foot, qu'ils changent de sport. C'est pas pour eux le football, ils connaissent pas la culture du football, qu'on les veut pas, on veut pas de ces gens-là qui dégagent. Oui, mais... Toi et tes amis et Neymar là sur Insta faire vos guignoleries.
Tiens, tout a changé ce matin.
Ça fait du bien de poser la même chose quand on dit
dans la fête, ouais.
Hein?
C'est la même chose.
Non, non, mais c'est cool. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins on profite un peu, tu vois, on se fait une petite trêve, on s'éclate. Nous aborderons évidemment l'affaire Karl Toko et Cambi. En effet, vous êtes au courant. Le joueur lyonnais, compieusement sifflé, a réagi en criant, je cite, je vais vous niquer vos mères. Alors bon, déjà, promesse compliquée à tenir, sachant qu'il était quand même plusieurs milliers, les mecs. Alors, je connais pas l'énergie sexuelle de Karl Toko et Cambi, mais bon, ça demande de l'organisation, un planning. Avec un match par semaine, c'est jouable, mais c'est pas simple. Eric, toi qui es un peu chaud, tu connais un petit peu le milieu. Des ultras, je parle, milieu des ultras. C'est pas très cool de vouloir niquer la mère des autres. Enfin, sauf si t'es un banquier surdoué, prêt à embrasser de grandes fonctions. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les supporters lyonnais au stade ont pété un plomb au moment où Karl Toko, et Cambi a préféré ses insultes. Un supporter sur énervé, c'est parce qu'il a dit ça. Alors, comment ils savent qu'il a dit ça? Parce qu'en fait, ils ont, à mon avis, dû faire appel à un spécialiste labial. Parce que la vraie question qui se pose, c'est comment des supporters à moitié bourrés, à 30 mètres d'un joueur dans un brouhaha improbable, ont réussi à lire sur les lèvres de Karl Toko et Cambi. Il y a, à mon avis, une association sourd-muet de Rhône-Alpes qui avait été invitée pour l'occasion. Et comme eux, ils savent lire sur les lèvres, moi, je vois pas d'autre solution. Hein. Admettons qu'ils étaient sourds et muets et qu'ils aient été invités. Mais après, faut qu'ils le répètent aux ultras pour que ça les énerve. Imagine.
Oui.
Mais il y a pas d'ambiance. Ok, j'ai vu une ambiance de stade normalement.
Ah voilà. Ouais.
Oh putain, il y a Toko et Cambi nous insulter, je crois.
Ah bon, il a dit quoi?
Attends, je demande au surmuet là. Il est sur les lèvres. Eh, machin, il comprend rien. Machin, il a dit quoi, Toko et Cambi?
1. Il a dit, je veux winguer vos mères.
Quoi?
Je veux winguer vos mères.
J'ai voté Marine Le Pen, je comprends rien. Qu'est-ce quoi?
Je veux winguer vos mères.
Je veux du muguet, du hier. Putain, personne a un stylo. Après enquête, je crois qu'en fait, on s'est foutu de notre gueule. Personne n'a compris ce qu'il avait dit, ils avaient juste envie de l'insulter.
Et on se désolidarise, bien sûr, de cette séquence.
Ça va s'en dire. Winguer.
Je crois qu'on a la réaction, le titre de champion, on en parlait, je crois qu'on a la réaction de Pochettino.
Ah. Alors, Mauricio, ça vous fait quoi, ce premier titre, sur votre palmarès? Ça doit vous faire plaisir, non?
Pour le moment, l'objectif de l'obtention de titre n'est pas encore assuré et nous sommes focalisés encore sur l'obtention, justement, du titre. Et...
Ah, bah si, là, c'est fait, là, mathématiquement.
Ah! Merde, merde. Ah ben merde, merde.
Visiblement, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG. Alors rassurez-vous, sa tête est tombée dans un panier en osier. Ah non, dans un panier en oseille. Ça va, c'est plus confortable.
Le Casar enchaîné.
Julien Casar qu'on retrouve tous les soirs dans Rotten sans flamme avant 19h. Et pendant ce mois d'août, on vous propose les meilleurs moments. Dans une seconde, avec Alexis Sanchez, le mercato de l'OM est-il réussi? 32-16 pour débattre. Si vous n'avez pas entendu la conférence de presse de présentation de l'attaquant chilien, restez avec nous. Florent Germain vous fera un petit résumé. On sera aussi avec Thomas Mangani. Il a quitté Angers après 7 ans pour Ajaccio, le promu. Il va nous raconter sa nouvelle vie tout à l'heure. Et puis Benzema, peut-il vraiment réussir une meilleure saison? C'est ce qu'il a annoncé vouloir faire. Lui qui sort d'une saison où il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions et du championnat d'Espagne. Ça va être costaud s'il y parvient. On fera le débat tout à l'heure. En plus du quiz, vous pouvez vous inscrire. Il y a des places pour Nice-Strasbourg à gagner si vous envoyez top par SMS au 732-16. A tout de suite pour la deuxième heure de Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.